con IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un modo per scoprire il futuro anche più immediato, tra nuove strade e nuovi modelli sociali, culturali, politici, economici e altro ancora. La professoressa Elena Pessini intervista Patrick Chamoiseau.
Accogliamo con grande piacere lo scrittore francofono martinicano Patrick Chamoiseau all'interno delle interviste di UniPR On Air. Allora, Patrick Chamoiseau avrebbe dovuto essere presente a Parma lo scorso novembre, il 5 per l'esattezza, per ricevere la laurea ad honorem in lettere classiche e moderne. Purtroppo per colpa della pandemia abbiamo dovuto rinviare il conferimento, rinviare la cerimonia, ma non abbiamo rinunciato a poter dialogare con lui e quindi lo facciamo in questo contenitore virtuale che ci permette di parlare con lui dalla lontana Martinica da cui ci parla, aspettando di poterlo accogliere in presenza a maggio prossimo. Quindi dopo il mondo dei media, dell'economia, della scienza, della medicina, invochiamo e convochiamo la letteratura per aiutarci a capire, a comprendere, a decifrare quello che sta succedendo, questo momento così difficile per le nostre società e per ognuno di noi. Bonjour et bienvenue, Patrick Chamoiseau. C'est un très grand plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et nous accueillons en votre personne le grand écrivain, auteur d'une œuvre considérable. Alors je ne peux pas tout résumer en quelques minutes. Vous avez reçu beaucoup de prix littéraires. Vous avez été en janvier 2020 titulaire de la chaire d'écrivain à Sciences Po. Vous avez publié beaucoup de romans, d'essais, de récits, d'histoires, de scénarios. Et en Italie, vous êtes connu puisque vous avez eu beaucoup de traductions. Alors je ne cite que justement les œuvres qui ont été traduites. Chronique des sept misères, Texaco bien sûr, qui a remporté en 1992 le prix Goncourt. Et Texaco a eu la chance, c'est un roman qui a eu la chance d'être traduit par un écrivain. Sergio Azzeni, le regretté Sergio Azzeni, qui avec sa traduction a établi un parallèle, une passerelle entre l'île de Sardaigne et l'île de Martinique. Et Texaco a remporté le prix Grinzane et Cavour de la traduction. Mais L'esclave, vieil homme et le molosse aussi a été traduit et tout dernièrement Frères migrants que vous avez publié en 2017. Alors, si vous êtes d'accord, je vais commencer par la fin de votre production littéraire, donc par Frères migrants, qui circule beaucoup en Italie. C'est un texte qui est beaucoup lu et c'est un texte que nos étudiants lisent et connaissent. Alors, Frères migrants est traversé par le frisson de tous les points d'exclamation qu'on trouve dans le texte. C'est un frisson d'indignation. Vous avez voulu réagir dans ce texte face à ce drame des femmes, des hommes et des enfants qui traversent la Méditerranée et qui se heurtent contre ce mur européen, d'indifférence et qui transforme la Méditerranée en un cimetière. Et Frères migrants se termine par ce très beau texte poétique, la Déclaration des poètes. Alors l'intitulé nous rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sauf que cette fois ce n'est pas une assemblée nationale, mais ce sont des poètes qui déclarent, ce sont des poètes qui déclament ce texte. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est Est-ce que, à travers ce texte, vous n'avez pas voulu dire que, puisque le politique a échoué dans ses tentatives de donner des réponses, on passe la parole, on donne la parole au poétique?
Oui, 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 c'est un peu cela. Je pense que c'est un peu cela. Je pense que lorsque le politique arrive à, je dirais, un certain niveau de dessèchement, en tout cas un niveau où la dignité humaine, la décence, l'attention portée à l'autre, tous les processus relationnels à l'autre sont abîmés, je pense que le politique, à ce moment-là, souffre d'un déficit en poétique. Et c'est vrai que le poétique, pour moi, c'est une manière d'être relié à tous les éléments de l'existence, à tous les éléments du vivant, mais c'est aussi et surtout une manière d'être relié à ce que l'humain a de plus humain. C'est-à-dire que c'est dans le poétique que se trouvent les émotions hautes, les valeurs hautes que sont l'amitié, l'amour, la tolérance, l'accueil de l'autre, le souci de l'autre, la réalisation de soi à travers l'autre, etc., etc. Ce qui fait qu'il me semble aujourd'hui qu'avec le néolibéralisme, on a un épuisement, en tout cas un dessèchement de l'action politique. Et ce dessèchement s'accompagne, bien sûr, et on le voit tous les jours, du peu d'importance accordée à la parole artistique ou à la parole poétique. Et j'ai toujours pensé qu'il y a un mode de connaissance du réel et du monde qui se fonde sur l'approche scientifique, mais il y a aussi un mode de connaissance sensible qui se pose sur l'état poétique, c'est-à-dire un rapport au monde où le sensible, le vivant, l'attention portée au détail, le maintien du détail dans la perception du tout, toute une attitude poétique très particulière qui doit nourrir aussi la connaissance que nous avons des choses. Et le souci était de ne pas laisser un phénomène comme celui des migrants simplement livré aux experts économiques, aux experts juridiques, aux experts politiques, mais c'était une manière de dire que les poètes, les artistes, le sensible a aussi une information à nous porter, en tout cas un enseignement à nous porter, et cet enseignement peut nous aider à ne pas sombrer complètement dans une barbarie, sachant que la barbarie, c'est lorsque le politique s'éloigne du poétique.
Alors, vous avez l'habitude de réagir, vous avez l'habitude de vous indigner. Par exemple, dans un autre texte que vous avez co-écrit avec Édouard Glissant, « Quand les murs tombent », et vous avez réagi par rapport à la création de ce ministère de l'intégration, de l'identité, de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration. Alors, c'est un ministère qui avait tout pour vous déplaire avec ces deux mots. J'ai cru comprendre qu'ils vous gênent beaucoup. Ce sont les mots de intégration et identité nationale. Alors, pourquoi ces mots vous dérangent? Alors qu'ils sont très souvent employés, analysés, utilisés. Et le mot intégration, très souvent, dans une acception positive que vous contestez.
Oui, bien sûr. Quand on voit généralement ce qui est appelé intégration dans les pays occidentaux, c'est simplement une désintégration de celui qui arrive, qui est d'un autre univers civilisationnel ou d'un autre univers culturel, et qui doit s'adapter et s'intégrer à la nouvelle réalité dans laquelle il veut exister et travailler. Et ce processus d'intégration suppose une désintégration de celui qui arrive. On lui demande d'abandonner pratiquement ce qui constitue sa richesse, c'est-à-dire d'abandonner ce qui fait sa différence. Et on sait que dans les relations, dans le vivant, ce qui fait la richesse d'une relation, ce n'est pas lorsque le même se rencontre, mais véritablement lorsque les différences se rencontrent. Et lorsque les différences arrivent à trouver ce lieu d'harmonisation qui permet à chaque différence de se maintenir et à toutes les différences de produire ensemble un espace, je dirais, de surgissement de nouveautés. Et ça, l'idée d'intégration l'évacue. Ce qui fait que dans l'idée d'intégration, on a cette perspective qui est de se dire, nous allons intégrer l'immigré, c'est-à-dire, voilà, je reste ce que je suis, exactement comme je suis, je ne bouge pas d'un millimètre, et je vais intégrer l'immigré à mon paradigme, à mon dogme, à ma vision du monde, à ma manière d'être, etc. Ce qui est une mauvaise manière, à mon avis, une manière mortifère, en tout cas, une manière barbare d'envisager le rapport à l'autre. Alors, reste la question de l'identité. Une identité n'est pas quelque chose que l'on peut administrer. Une identité provient de quoi ? Une identité, ce n'est pas une fixité que l'on pose dans le vivant ou dans la vie et autour de laquelle la vie s'organiserait. Non, une identité naît d'un processus relationnel. C'est-à-dire, on est vivant, on rencontre, on a des expériences, on a des modifications, on a des évolutions, on a des hybridations, on a des événements chaotiques, on a tout ce qui fait le vivant, c'est-à-dire un flux permanent de modifications, de réagencements et je dirais de surgissements. Ce qui fait que lorsqu'on veut administrer une identité, c'est-à-dire une présence particulière au monde, une présence historique ou culturelle ou nationale au monde, c'est comme si on voulait l'enlever du vivant et la formuler d'une certaine manière, la pétrifier ou la muséographier. Et ça, c'est une aberration. Ce qui fait que refuser l'administration du vivant, c'est de se dire qu'il n'y a d'identité que dans des processus relationnels. Et c'est pourquoi la notion d'identité peut être problématique, parce que s'il faut se faire une idée de l'identité, on ne peut l'envisager que dans sa dimension dynamique. Il n'y a d'identité que confrontée à des différences, à des changements, à des évolutions, à tout un écosystème vivant qui donne à cette identité l'oxygène qu'il lui faut pour, à tout moment, se renouveler, renaître, se recomposer, se réagencer. Ce qui fait que la notion d'identité devient problématique parce que l'identité est nécessairement, je dirais, une dynamique de transformation. Ce qui fait que, avec l'idée de relation, le concept de relation qui a été développé par Édouard Glissant, ce concept de relation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'au moment de la colonisation occidentale, quand l'Occident s'est précipité sur le monde et qu'ils ont entamé le début de leur domination sous les auspices du capitalisme et du néolibéralisme, il y a bien sûr la domination occidentale, la hiérarchisation des cultures, des langues et les phénomènes de racisme, de hiérarchisation des races. Mais Glissant va se dire, mais ce qui a de plus important dans la colonisation, c'est que le monde a fait monde. Les cultures, les civilisations, les communautés se sont rencontrées, se sont mélangées, se sont heurtées, se sont génocidées, mais il s'ensuit un phénomène qui est un phénomène déterminant, c'est que désormais, toutes les cultures et toutes les civilisations du monde sont en relation, c'est-à-dire elles sont précipitées de manière plus ou moins consciente dans des processus dynamiques de relation. Et aujourd'hui, nous sommes précipités dans des flux relationnels qui sont extrêmement importants. Ce qui fait que l'idée d'identité telle qu'on pouvait l'imaginer, un peu stable, un peu fixe, dans les communautés archaïques, les communautés anciennes, qui vivaient avec des absolus linguistiques, des absolus religieux, avec des absolus phénotypiques, dans des stabilisés temporels très longs, tout ça, ce n'est plus tellement recevable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes en permanence dans un flux relationnel qui fait que, quelle que soit la culture, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la donnée identitaire qui est la nôtre, cette donnée est précipitée avec d'autres données. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'identité ne peut être que relationnelle, c'est-à-dire transformatrice, évolutive et, je dirais, changeante. Ce qui fait qu'à la limite, on pourrait abandonner l'idée d'identité pour comprendre que exister véritablement, cela veut dire entrer dans des dynamiques relationnelles avec la diversité de ceux qui existent dans le biotope que représente la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à penser et à vivre parce que nous avons le confort des vieilles communautés, les absolus linguistiques, les absolus religieux, Ma langue, c'est la plus belle, mon Dieu, c'est le meilleur, ma vérité, c'est celle qu'il faut au monde, etc. Et ce confort-là, nous l'avons habité pendant des millénaires et des millénaires. Et la relation nous oblige à sortir de ce confort et à tenter de nous tenir debout dans l'incertitude linguistique, l'incertitude religieuse, la transformation permanente de ce que nous avons à vivre et la nécessité de réagencer en permanence des données qui nous viennent de la totalité du monde. Pas des données qui nous viennent de notre seule culture ou de notre seul territoire, mais qui nous viennent de la totalité du monde. Et ça, c'est une situation extrêmement inconfortable. Et c'est parce qu'elle est inconfortable qu'on voit, on va voir surgir les nationalismes, les fanatismes, tous les absolus linguistiques, phénotypiques, ratios, en fait, tout ce qu'on peut imaginer comme réaction à la relation ou à la diversité, tout ça surgit. Ce n'est pas parce que la relation n'existe pas qu'il y a tant de phénomènes d'absolus, c'est simplement parce que la relation progresse dans le monde, le sentiment ou la conscience que nous avons de l'emmêlement des cultures et des civilisations provoque une émergence de tout ce qui contredit cet emmêlement des cultures et des civilisations. Donc les nationalismes meurtriers, les purifications ethniques, les absolus linguistiques, les fanatismes religieux, c'est le signe que la relation telle que l'entendait Édouard Glissant progresse dans le monde.
Oui, alors je voulais vous demander si la relation est une utopie, mais vous m'avez répondu, non, ce n'est pas une utopie, la relation est en marche, elle est là. Et
c'est un fait, hein. Lorsqu'on dit, très souvent, on dit, bon, les cultures, les civilisations sont désormais en contact avec des flux relationnels. La première conséquence de cette mise en relation des cultures et des civilisations, c'est que l'individu qui généralement était dans un corset symbolique, culturel et identitaire qui relevait de sa communauté, mais l'individu est éjecté de sa communauté. Dans la relation, ce que reçoit l'individu comme donnée de transformation ne provient plus seulement de sa culture, de sa langue, de son histoire, de son territoire, etc., mais provient de dispositifs complètement erratiques, complètement imprévisibles, qui viennent de la totalité du monde. Ce qui fait que l'élément le plus déterminant dans la relation, c'est l'équation individuelle. Nous sommes des sociétés d'individus. Nous ne sommes plus des sociétés où les communautés parvenaient à maintenir l'individu dans une espèce d'osmose collective. C'est fini. Les démocraties aujourd'hui, on voit bien toute la difficulté des démocraties contemporaines, c'est qu'elles ont à gérer des imaginaires individuels qui sont nourris par des expériences totalement individuelles. Et ça, c'est très, très difficile à vivre. Et pour bien comprendre à quel point la relation est active, il suffit de voir le virus qui est actuellement en cours. On voit à quel point un virus qui surgit dans une petite contrée en Chine, en quelques mois, arrive pratiquement dans tous les coins et recoins de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre existence, elle ne se fait plus entre les murs des absolus que nous avions auparavant, mais que notre existence aujourd'hui est exposée plus que jamais aux grandes influences, aux grandes expériences et aux grands événements qui se produisent dans le monde. Alors bien sûr, ça a été rendu possible par les accélérations technoscientifiques qui ont développé les processus de communication, mais même si on enlevait ces processus de communication, la conscience que nous avons de la présence du monde est de plus en plus forte. Donc la relation est à la fois un phénomène anthropologique, les cultures et les civilisations et les individus se mélangent, se rencontrent et produisent du nouveau, mais c'est aussi un phénomène économique avec le néolibéralisme, hélas, et c'est aussi un phénomène technoscientifique avec toutes les accélérations du numérique et de la technoscience. Donc nous sommes véritablement dans un maelstrom, une sorte de chaos très particulier, où nous avons, d'une certaine manière, à revoir tout ce qui nous permettait de vivre à peu près confortablement, aujourd'hui s'envole parce que nous devons vivre à une échelle qui est tellement vaste, tellement réactive, tellement sensible, tellement relationnelle, que ce qui prédomine dans cet espace-là, c'est l'incertain, c'est l'imprévisible et parfois même c'est l'impensable. Donc, c'est toutes les difficultés du monde contemporain, c'est ce changement de paradigme. Nous devons passer du confort des absolus à l'instabilité ou à l'incertitude ou même à l'impensable de la relation.
Oui, alors cette allusion que vous faites au virus, alors la relation devrait nous permettre de mieux comprendre et d'appréhender différemment ce qui est en train de nous arriver. Alors, comme vous disiez, le monde est en totale relation, donc tous les hommes en ce moment sont en train de vivre cette expérience, toutes les sociétés sont en train de vivre cette expérience, et en même temps, l'homme devient une menace pour l'homme. Nous sommes obligés de nous protéger les uns les autres, de nous défendre les uns des autres. Et en quoi, justement, est-ce que l'idée de la relation peut nous aider à dépasser ce stade où les mots qui reviennent le plus, c'est justement distanciation sociale, confinement. Par exemple, l'écrivain québécois d'origine haïtienne Joël Desrosiers a dit qu'il faut absolument arrêter avec ce terme de distanciation sociale, mais il faudrait préférer distance de précaution.
Ou distanciation physique. La distanciation physique. Oui, la question de la relation est très difficile à comprendre dans toutes ses implications parce que les implications sont extrêmement profondes, diversifiées, variées, multidimensionnelles. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il me semble qu'il y a un fait relationnel. Le fait relationnel, c'est qu'avec la colonisation, culture, civilisation, individus sont mis dans une sorte de machine à laver qui va les mettre dans un processus forcé ou pas forcé, brutal ou pas brutal, en tout cas, nous sommes embringués dans une dynamique d'ensemble où tout ça se retrouve. C'est ce qu'on peut appeler le fait relationnel. Et c'est ce qui s'est produit dans le fait relationnel, c'est que beaucoup de peuples et beaucoup de cultures et beaucoup d'individus se sont retrouvés mis sous relation. C'est-à-dire qu'ils subissent le fait relationnel. Ils subissent le fait relationnel simplement parce qu'ils en sont victimes. Ils sont génocidés, ils sont mis en esclavage, ils sont dominés religieusement, culturellement, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme, je dirais, déséquilibre de la relation, et ils subissent cette relation. Donc ce qu'il faut déjà dans le fait relationnel, distinguer ce qui relève de la passivité agressive ou dominée, la mise sous relation, de ce qui relève d'une autre poétique, c'est-à-dire une autre manière d'élaborer ces principes, son éthique, qui nous permettrait de transformer le fait relationnel en une dynamique positive que l'on appellerait la mise en relation. Lorsque deux entités, deux cultures, deux civilisations ou des individus sont mis non pas sous relation, mais en relation, la relation n'existe que quand l'équilibre de chacun est préservé. Quand ma langue se nourrit de ta langue et veille à la santé de ta langue. Les langues se nourrissent entre elles et se protègent entre elles. Les cultures se nourrissent entre elles et se protègent entre elles. Les civilisations se nourrissent entre elles, prennent ce qu'elles ont de meilleur, dépassent peut-être ce qu'elles ont de plus dramatique. Donc vous voyez que la relation suppose, je dirais, la l'égale plénitude de chacune de ces parties. Chaque fois qu'il y a une rupture dans le fait relationnel, nous sommes plus sous la relation que la mise en relation. Donc, tout le travail que nous avons à faire, c'est de considérer ce fait relationnel avec tous les problèmes que ça engendre de mise sous relation et de développer en nous cet imaginaire très, très particulier, cet imaginaire différent qui nous permettrait de transformer le fait relationnel en une mise en relation véritable. Alors, l'autre élément qu'on peut dire, c'est que cette zoonose, c'est-à-dire ce passage d'un virus du monde animal à l'humain, c'est quelque chose qui provient, d'une certaine manière, de la mise sous relation de la nature et de la planète. Le néolibéralisme ou le capitalisme est un peu le moteur du colonialisme, c'est le moteur de la globalisation économique, mais ce néolibéralisme et le capitalisme derrière ne crée pas de mise en relation. Ce néolibéralisme et marché économique créent de la mise sous relation. Ce qui fait que le capitalisme a toujours considéré la nature comme un objet à exploiter, à administrer, à épuiser, etc., quelque chose qui est en dehors de l'existence et qu'on peut infiniment exploiter. Et cette mise sous relation de la nature, le capitalisme l'a exercée aussi sur les êtres humains. On le voit bien avec le génocide des peuples amérindiens, la traite, l'esclavage, les colonisations, les dominations des peuples, etc. Tout ça, ce sont des chosifications des êtres humains. Donc, d'une certaine manière, une mise sous relation. C'est-à-dire, j'existe, un peu ce qu'on disait tout à l'heure de l'intégration, je suis là, l'absolu, la vérité du phénotype, de la race, de la civilisation, de la culture, du Dieu, c'est moi, et je soumets tous les, je mets tout cela, je soumets tous les autres à mon absolu. Donc, c'est une mise sous relation. Et cette mise sous relation de la nature, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a complètement décomposé la nature. C'est-à-dire que les espaces sauvages, les espaces naturels sont de plus en plus rares, le biotope, la diversité est en train de s'effondrer, et les animaux n'ont pratiquement plus d'espace à eux. Donc, il y a une proximité entre les espaces urbains, humains et le reste, et ceux qui subsistent, les animaux qui survivent encore à la dégradation du biotope planétaire. Il y a une telle proximité qu'il faut s'attendre à des zoonoses, à des pandémies venant du monde animal qui risquent d'être effrayantes. Ce qui fait que, paradoxalement, cette distance qu'on nous demande, ces protections qu'on nous demande, cette distanciation physique, elle ne vient pas de la relation, elle vient d'une mise sous relation de la nature. Et lorsque nous aurons trouvé par un autre imaginaire à mieux équilibrer notre rapport à la nature, à réinstaller le phénomène humain, l'idée que nous avons de l'humanisme dans le vivant, nous allons rentrer dans un rééquilibre, une mise en relation entre le surgissement du phénomène humain et la présence du biotope planétaire. Vous voyez que la question de la relation est absolument, absolument vitale. Et lorsque nous sommes avec cette crainte nouvelle que l'autre, celui mon frère, celui qui me ressemble, puisse m'amener le virus, c'est simplement un temps transitoire. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui va durer très longtemps, mais en tout cas, ça nous permet de prendre conscience que le phénomène humain est inscrit dans une réalité qui est celle du vivant et que nous ne pouvons envisager l'humanisme que dans une horizontale plénitude du rapport au vivant. Chaque fois que le vivant est mis sous relation, nous sommes atteints nous-mêmes dans ce qu'il y a de plus précieux pour nous, qui est le rapport à l'autre, le rapport au frère humain. En se séparant de la nature, en saccageant les espaces naturels, en éliminant les animaux, en les traitant comme nous les traitons, paradoxalement, nous entrons dans un processus de chosification qui nous atteint nous-mêmes dans ce que nous avons le plus précieux, qui est le rapport aux frères humains. Et on voit bien qu'il y a une urgence à véritablement entrer dans une mise en relation avec tout le vivant et avec les biotopes planétaires.
Il y a une urgence aussi à passer de la mondialisation à la mondialité, comme vous proposez souvent.
Oui, oui, c'est-à-dire que ce qui s'est produit, c'est que lorsque, en 1492, quand Christophe Colomb pose le pied dans les Amériques, va commencer avec le capitalisme, puisque derrière Christophe Colomb, il y a des financiers, des capitalistes, va commencer la mondialisation économique. Et c'est vrai que le fait relationnel dans le monde a été porté par le capitalisme qui a transformé la réunification du monde, l'a transformé en phénomène économique. Ça a été un phénomène économique où ce qui dominait, c'était le tout-profit, le profit maximal. Donc les hommes ont été asservis, la nature a été asservie, tout a été saccagé. Et là, on est au point où le capitalisme, par la mondialisation, est en train de menacer. En tout cas, on est proche d'un écocide planétaire simplement parce que le capitalisme était capable de se réfréner ou de se penser autrement que dans le tout-profit, la réification de tout ce qui existe et, la domination et la mise sous relation. Et à partir de là, ce qui se produit, c'est que nous sommes obligés, non pas à nous focaliser sur, je dirais, l'ossature économique, la dynamique apparente qui est économique, et de chercher un autre phénomène qui est plus important, qui est aussi important, mais qui est encore invisible et souterrain, qui est le fait que sous les marchés économiques et les nécessités économiques et les besoins du profit, les cultures, les imaginaires, les langues se touchent, les individus se déplacent, on change de culture, on reçoit plusieurs langues, on entend plusieurs musiques, on est plus sensible à des choses qui ne sont pas de notre univers de base. On entre dans un phénomène inattendu qui n'est pas prévu par le capitalisme et que Glissant a appelé la mondialité. La mondialité, c'est tout ce qui, dans le fait que le monde soit d'une certaine manière mis en dans le fait relationnel, la mondialité, ce sont tous les phénomènes moléculaires qui se produisent en dehors du tout profit économique. Et ça, c'est une notion à laquelle nous devons être attentifs. Parce que, pendant longtemps, nous avons cru que pour lutter contre les méfaits de la mondialisation économique, il fallait renvoyer le monde, en tout cas rejeter le monde, rejeter toute existence au monde. Et pendant longtemps, ceux qui voulaient lutter contre les néolibéralismes et la mondialisation économique pensaient qu'il fallait fermer les portes et les fenêtres, s'enfermer dans sa langue, s'enfermer dans son territoire, s'enfermer dans ses traditions, etc., etc. Alors que Glissant dit non, il y a un autre phénomène sous la mondialisation économique qui est en train de nous donner un autre imaginaire, une autre manière de penser les choses, et nous ne pouvons plus aujourd'hui, dans un monde qui est relié, qui est sous le fait relationnel, nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions auparavant, c'est-à-dire avec des absolus, des exclusives identitaires, des exclusives linguistiques, etc. Nous sommes obligés de vivre en relation. Et l'idée de la mondialité, c'est phénomène qui nous permet de penser non seulement le fait relationnel, mais dans ce fait de relationnel, d'essayer de produire ce nouvel imaginaire qui nous permettra non pas la mise sous relation, mais la mise en relation. Et ça, c'est très important. Donc, ne pas rejeter le monde, ne pas rejeter sa présence au monde, aucun individu, aucun peuple, aucune tradition, aucune culture, aucune langue ne peut se développer en dehors du monde. Les langues ont besoin des langues, les cultures ont besoin des cultures, les mémoires avec les absolus mémoriels ont besoin des autres mémoires. Nous devons tout mettre en relation. Et dans ce vertige de cette mise en relation, nous devons trouver de nouveaux principes pour assurer à chacun un épanouissement optimal de ce qu'il est.
Alors, dans tout ce que vous nous avez dit ce soir, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est les langues, la rencontre des langues. Alors, ce sera ma dernière question. Dans cette mondialité, justement, le rapport entre les langues est un nouveau rapport. Et comment vous le voyez? Comment on peut imaginer ce nouveau rapport entre les
langues? Ce qu'on peut dire, c'est que dans le problème qui nous occupe fondamentalement dans le monde contemporain, qui est celui de la relation. Dans le fait relationnel, nous subissons une mise sous relation. Elle est économique, elle est occidentale, on a des valeurs dominantes, on a des religions dominantes, on a des modes de vie dominants, on a des principes et des valeurs dominantes qui s'imposent pratiquement à tout le monde. Donc, on a une mise sous relation par l'Occident de presque la totalité du vivant et du monde, l'Occident capitaliste. Et dans cette difficulté de mise sous relation, notre problème est de comment sortir de la mise sous relation pour entrer dans une véritable mise en relation, sachant que dans la mise en relation, la plénitude de chaque partie est assurée et respectée. Il n'y a pas de relation si un élément de ce qui est mis en relation est déséquilibré. Et dans cette question-là, la question des langues est centrale. Et c'est vrai que dans la mondialisation économique telle qu'elle est pensée par le capitalisme occidental, il y a une hiérarchie des langues. Il y a la langue utile qui est l'anglais, qui est techno-scientifique, qui permet de, d'entrer dans, dans le marché, dans l'économie, qui permet même d'accéder à ce que la science a de plus avancé. Et puis, il y a les autres langues qui, elles aussi, veulent être dominantes. Alors, la francophonie se bat contre l'anglophonie. Enfin, on entre dans des processus où les langues sont hiérarchisées, réduites à des utilitarités ou des utilités un peu étroites, économiques, dominatrices, conquérantes, technologiques, scientistes, etc. Donc, on voit bien que là, on a un appauvrissement de l'espace linguistique parce qu'on a quelques langues dominantes et toutes les autres langues sont en jeu. C'est-à-dire que l'imaginaire de celui qui vit en mondialisation économique est nourri principalement par la dimension anglophone, un petit peu par les autres langues, grandes langues véhiculaires, et toutes les petites langues, tous ces milliers de langues qui existent, et qui sont fragiles, qui sont sous relation, qui sont dominées, ne nourrissent plus l'imaginaire humain. Et ça, c'est une pauvreté. Ce qui fait que l'idée de la mondialité nous permet d'échapper à la hiérarchisation des langues. Dans la mondialité, on se dit, la mondialité qui, si on arrive à la penser et à la vivre consciemment, c'est-à-dire si on passe de la mise sous relation à la mise en relation, on s'aperçoit que je ne peux sauver ma langue ou développer ma langue ou vivre ma langue profondément et assurer à ma langue un oxygène d'épanouissement que si je parviens à respecter, à aider, à sauver, à préserver la pluralité des langues qui existent. Aujourd'hui, comme le dit Glissant, un véritable écrivain contemporain, lorsqu'il s'assied à sa table, il n'est pas enfermé dans un absolu linguistique. Il ne peut pas percevoir le monde avec sa seule langue. Il ne peut envisager le monde qu'avec l'émotion que peut lui procurer le désir imaginant de toutes les langues du monde. Ce qui fait que si nous parvenons à avoir cet imaginaire de la relation, donc à entrer véritablement, à faire de la mondialité quelque chose de plus déterminant que la mondialisation, nous aurons une préservation de ce qui est le plus important, hein, au-delà des langues, parce que les langues vont mourir, il y a de toute manière, quelles que soient les conditions des langues, il y en a qui vont apparaître, il y en a qui vont disparaître, bon, ce sont des phénomènes, les phénomènes du vivant. Dans le vivant, il y a de la mort, il y a de la renaissance, il y a des hybridations. Donc on a un magma, on aura un magma linguistique, tout ce que l'homme a pu produire en termes de langue et d'expression. Et de ce magma, chacun va nourrir son imaginaire pour produire ce qui va constituer un écosystème linguistique complexe. C'est-à-dire, on peut avoir une langue de littérature, une langue de poésie, une langue pour l'amour, une langue pour les sciences, etc., mais sans jamais hiérarchiser les langues. Dans un imaginaire de la relation, nous aurons au contraire le souci de faire en sorte que la vaste clameur des productions linguistiques puisse se rassembler pour fournir ce qui est le plus précieux, l'expression humaine. Ce n'est pas la langue qui est importante, c'est l'expression. Et un individu doit bien comprendre que l'épanouissement individuel ne passe pas par l'enfermement dans une langue, mais dans une capacité à ouvrir ou à amplifier au maximum ses capacités d'expression. Et pour amplifier au maximum ses capacités d'expression, ça veut dire qu'on a le désir, on est ému, on est soucieux de la présence des autres langues. Et ça ne veut pas dire qu'on connaîtra toutes les langues du monde, mais on sera vigilant pour faire en sorte qu'il y ait dans les espaces sociaux, dans les politiques publiques, dans les expressions culturelles, dans les soirées poétiques, dans les textes littéraires, qui concentrent la présence des autres langues. Et ça, c'est particulier. Et ben, c'est, en littérature, qu'est-ce que ça peut donner ? En littérature, on peut dire qu'on a deux temps à peu près. Si on est dans un absolu linguistique, c'est ma langue qui est ma colonne vertébrale, c'est avec elle que je regarde le monde, ce qu'on va développer comme créativité dans la langue traitée comme un absolu, ça va être une sorte de style. Le style, c'est véritablement une petite fantaisie, un accommodement, une petite créativité dans une langue, mais qui ne remet pas le côté absolu de la langue, c'est-à-dire le fait que ça soit la seule langue possible et la seule langue envisageable. Le style, c'est ça. Aujourd'hui, un écrivain contemporain, ce qu'on lui demande, enfin en tout cas dans mon esthétique, ce n'est pas de produire un style dans l'absolu d'une langue, mais de produire un langage, sachant que le langage ne conforte pas l'absolu linguistique. Au contraire, le langage, c'est un peu Rabelais, et c'est aussi Gada. Hein, moi, j'adore, je suis frère de Gada. Dans une langue, on fait exploser la langue, et dans cette explosion, qu'est-ce qui est invoqué? Ce sont toutes les autres expressions possibles, toutes les autres langues possibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la littérature contemporaine, elle passe du style pour installer le langage. Pas de littérature contemporaine sans langage.
Bien, je vous remercie beaucoup, Patrick Samoiseau, pour cette belle conversation, ces belles paroles. Et je
merci
vous donne,
de m'avoir invité, puis je au vous, plaisir de vous rencontrer.
Oui, je vous donne rendez-vous au mois de mai, ici, à Parme.
D'accord.
Merci beaucoup.
Au revoir. À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.